de réciprocité, c'est-à-dire de dons et de fausses dons. Et ça, j'ai pensé à une chose. Ça s'est pensé à la tradition juive, on dit que Dieu s'est retiré, il y a une rétractation de Dieu pour laisser le monde exister. Je pense que le phénomène de tolérance, le processus de tolérance, induit ce phénomène. C'est-à-dire qu'on doit faire place à l'autre. On doit faire place à l'autre. Mais c'est il y a une réciprocité. Il y a un don et un contre-don dans ce processus de tolérance. Voilà, c'est pas simplement ça ne suffit pas de dire aime son prochain comme soi-même.
Votre question, madame. Une autre. Oui, Laurent.
Moi, j'ai une question.
Oui, j'ai une question. Vous m'entendez? Très bien. J'ai beaucoup apprécié la présentation des différents niveaux de tolérance. Et puis, nous sommes partis ensuite sur une deuxième partie où on nous a dit il faut alors créer une plateforme, il faut ceci. Mais pour moi, la question est la suivante, quel est le vrai plan d'action? Parce que là, je reste frustré. Pour moi, ce n'est pas un plan d'action. Aimez-vous les uns les autres, ce n'est pas un plan d'action concret pour se battre sur ce sujet. J'aimerais que vous puissiez développer vos réflexions parce que je sais que vous travaillez beaucoup là-dessus.
Laurent. Oui. Ne pensez-vous pas que le fait d'être dans un pays laïque, c'est quand même un grand sens et que finalement, ça permet des rencontres, ça permet, disons, quand même, une situation un peu plus apaisée, d'une certaine manière, dans la mesure où les pouvoirs publics n'influent pas dans un sens et dans un autre. Il me vient souvent à l'esprit de penser à ces pays où il y a des religions d'État. Et je me dis que ça ne doit pas être facile dans les pays de ce type qu'il y ait effectivement une coexistence, disons, pacifique entre les différentes communautés religieuses. Voilà.
Merci.
François Denis, qui est présent. Oui. Oui, on parle d'un coup de respect des valeurs. Alors, chacun met derrière le mot valeur qui
correspond le mieux dans sa vie de tous les jours. Alors, les valeurs, trois valeurs, vous avez cité, républicaines. Liberté, égalité et fraternité, à laquelle on ajoute maintenant laïcité, laïcité qu'on teste même maintenant. Et ces valeurs, les religieux, je suppose, enfin ceux qui suivent une religion, qu'elle soit chrétienne, musulmane ou juive, doivent les appliquer en France sans que ça leur pose problème, sans que ça suscite chez eux une haine. Mais alors, moi, j'ai une autre frange de la population, de la communauté, c'est-à-dire communauté, dont on ne parle pas à travers ces valeurs. Ce sont ceux qu'on appelle agnostiques ou athées. Quelle est leur place dans la société française? Quelle est leur place derrière ces valeurs? Parce qu'on parle beaucoup de la religion, des libertés religieuses. Parce que la France compte, je ne sais pas, quel est le nombre d'individus qui sont agnostiques et athées. Et moi, je me réfère justement à l'agnosticisme. Je suis un agnostique. Et quand j'explique ce qu'est l'agnosticisme, il faudra du scolaire pour l'expliquer. Le doute. Donc, le doute, c'est une liberté.
Il y a un petit doute.
Donc, quelle est leur place?
Ça, c'est souvent l'idée de se retirer, le retrait réciproque, c'est sans doute un élément important de la tolérance. et sans doute la forme du retrait varie avec l'évolution de la tolérance. D'une certaine manière, la tolérance très basique que j'ai appelée archaïque, et je tolère bien l'autre parce que je suis bien obligé, c'est une situation où je suis bien obligé de me retirer et de faire une place à l'autre. Déjà basiquement, je dirais, parce que juste, j'ai pas le choix, je suis bien obligé parce que, de toute façon, on voit bien que notre conflit, je n'arrive pas à éliminer celui qui est en face, et donc, ça c'est la vision très basique. Et puis, sans doute, plus on va évoluer vers une tolérance généreuse, plus on va choisir de se retirer, et plus être bien obligé de se retirer. Et notamment quand un dialogue devient un vrai dialogue, on va faire de la personne pour qu'elle exprime son point de vue, mais on va sans doute aussi essayer de aider l'autre à exprimer le plus son point de vue. Enfin, vous savez, quand vous dites à quelqu'un, vous allez vraiment comprendre ce qu'il vous dit, vous êtes amené à être plus intéressé par ce qu'il raconte, par ce que vous racontez, et à lui poser des questions pour qu'il puisse vraiment exprimer son point de vue. Et je pense que ça, on le fait par rapport aux questions qui nous intéressent, on est tous habitués à le faire avec des gens avec qui on est d'accord. Je pense que ce qui est plus important, c'est de le faire avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Je crois qu'il n'y a rien de plus important que de pouvoir identifier les désaccords. Sans doute, bien des fois, on était plus au clair que ce sur quoi on est vraiment en désaccord avec l'autre, on arriverait derrière à construire des vrais accords. Je crois qu'il n'y a rien de plus énervant dans le débat quand vous connaissez un auteur ou la position vraiment de quelqu'un, et puis cette personne-là est attaqué sur ses positions, et je dis, il est attaqué sur les positions raisonnables, mais qui ne sont pas les siennes. Je reviens que le débat dans ce cas-là ne tourne pas. Je me suis un peu éloigné du fait de se retirer, mais dans ce cas-là, je pense que c'est une manière aussi de se retirer dans sa volonté de vouloir forcément avoir raison et avoir raison ou avoir un accord sur ses propres positions. Et que ça, c'est quelque chose qui permettrait même deux interlocuteurs qui ne seront pas d'accord, ni peut-être pas à la fin de la discussion, de vraiment au moins savoir sur quoi il y a eu des accords, et sans doute plus productif. Sur la question de la laïcité, je pense qu'effectivement être dans un pays laïque, c'est une chance, que la loi de 1905 telle qu'elle est une chance, que la difficulté sans doute est le décalage croissant entre la loi de 1905, l'esprit dans lequel elle a été écrite, et un certain usage qui est fait de la laïcité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre de, pas mal de musulmans sans doute, ont le sentiment que la laïcité est instrumentalisée contre eux. Et que dans ce cas-là, ce n'est pas, par exemple, l'instrumentalisation de la laïcité, c'est pas la laïcité qui est contre l'islam, c'est le fait de, on utilise le terme laïcité pour dire à des musulmans que, en gros, ça ne doit pas être visible. Je donne un exemple. Moi, j'étais pasteur dans le 18e arrondissement. Les mosquées du quartier de la Goutte d'Or sont trop petites. Et donc, dans les carrés de Gabon, les prières débordent dans la rue. Bon. D'abord, ce n'est pas une volonté du tout des organisateurs, des responsables musulmans locaux. Il y a maintenant un projet de mosquée plus grande, etc. Et on a dit, voilà, le fait qu'il crée dans la rue, c'est contraire à la laïcité. C'est pas contraire, en tout cas, à la loi 1905. La loi 1905, il y a un paragraphe qui dit, parle des manifestations extérieures du culte. Donc, en soi, une prière qui se passe dans la rue, comme une procession, en tant que deuxième rang, c'est prévu par la loi de 1905. Et en plus, il trouve que c'est pas quelque chose qui est voulu par les responsables musulmans locaux, donc ça va très vite quand les problèmes matériels sont résolus. Mais quand justement la laïcité est utilisée comme ça, elle se retrouve à être, à mon avis, dévoilée, et ça devient une chance dans le débat. Et le problème, c'est comme elle a été, la manière de contact avec l'équipe, c'est une chance pour construire la façon de vivre ensemble. Si justement elle se retrouve, c'est tout ce qu'il a en place parce qu'il est utilisé, détourné, et qu'il est compris par certains de manière négative, on perd un outil qui est précieux. Donc, je pense que c'est important de faire attention aux usages anti-religieux de la laïcité, et en particulier aux usages qui sont faits actuellement contre l'islam de la laïcité. Alors, la place des diagnostics, j'ai pas tout à fait compris la remarque sur les valeurs, parce que je pense que les valeurs liberté, égalité, fraternité, les individus sont pouvoir dire ça, ils sont autant utilisables et autant vécus par les agnostiques. Sans doute, dans les débats, franchement, mon exposé a donné cette impression-là aussi, dans tous ces débats, on pense que c'est trop débat entre religions, et on pense pas assez à la place des agnostiques ou des non-croyants ou des athées, c'est pas la même chose, mais voilà, c'est plusieurs, ça correspond à différentes positions. La mission populaire dans ses pasteurs, dans son histoire, a toujours beaucoup essayé de faire une place justement au dialogue entre les croyants et les agnostiques ou les athées, y compris parce que dans notre histoire, on a été les milieux d'action populaire s'implantent dans les milieux ouvriers, dans les quartiers ouvriers, où les premiers interlocuteurs, une partie d'interlocuteurs, c'est les militants socialistes, les militants syndicalistes, donc beaucoup de gens qui sont athées ou agnostiques, on pense que le dialogue se joue aussi là. Par exemple, dans le dialogue à Gennevilliers, il y a un travail qui commence avec la mosquée de Gennevilliers, où dans les gens autour de la table, il y a l'église catholique, il y a donc les gens de la mosquée, il n'y a pas de juifs, parce qu'il n'y a pas de communauté juive à Gennevilliers, c'est-à-dire il y a une mosquée de côté de la rue à Amiens, donc c'est qu'on pourra faire un effort. Il y a une représentante de la mairie étant l'Union catholique, et qui représente effectivement les non-croyants autour de la table, quoi. Donc je pense que ça c'est important. Alors plan d'action, c'est un peu compliqué de passer au plan d'action. Je pense que c'est comme ça, pense que d'abord le travail que font toutes les associations interreligieuses comme la vôtre, c'est déjà un travail énorme, et c'est forcément un travail à continuer. Dans ce projet dont je parlais à Gennevilliers, le choix qu'on a pris, c'était de ne pas faire des dialogues sur les choses générales, mais de faire des groupes plus petits qui permettent aux gens de parler des signes d'enfants. C'est-à-dire qu'à la fois, les personnes musulmanes qui se parlaient de ce qu'elles ressentent comme islamophobie au quotidien, que les femmes qui portent le voile puissent parler des agressions, des insultes qu'elles reçoivent dans la rue, que remonter la communauté catholique, le fait qu'un nombre de parents avaient leurs enfants qui revenaient d'école et qui leur disaient qui se plaignait d'une pression de la part des camarades musulmans sur la conversion, que là où hier peut-être on s'est insulté entre soit t'es du tel quartier, soit tel quartier, soit t'es breton, soit t'es auvergnat, là t'es soit t'es un sale français, soit t'es un sale musulman, donc faut être français musulman au passage, quoi, voilà. Des catégories de c'est des gamins qui sont des catégories aussi de plus bêtes, mais ça entretient une inquiétude, et donc de parler aussi entre chrétiens et musulmans de ces questions-là. L'idée de vraiment discuter des choses qui font difficulté et qui font conflit. pense que ouais, moi, la formation, je ne dirais pas forcément beaucoup plus loin, c'est-à-dire effectivement réussir à rentrer sur les sujets qui font oser vraiment discuter des désaccords. Quoi. Je pense que justement, peut-être que les années 80, où il y avait on parlait de la tolérance, elle n'est pas bonne, cette situation parce qu'il fallait aller plus loin, découvrir l'autre, rencontrer l'autre, etc. Pouvait aller avec une rencontre finalement très, très gratuite, très sur la connaissance, mais au sens général, etc. Et c'est là peut-être que le travail, c'est plus se continuer sur ce qui ne fonctionne pas. Voilà.
Annette, je vais être là, je vais donner la parole à Marie-France.
Simplement, le groupe de sens se sont formés à partir de qui au départ, la méthode ou les relations, comment vous avez créé le groupe de sens?
On prend déjà les questions, je réponds après. Annette,
ben, c'est pas vraiment une question, mais je vais essayer de trouver une question. parce que mon ami Laurent, il m'a lancé sur le plan d'action, et j'aime beaucoup ça, parce que, sur les actions. Moi, je pense que, une des actions les plus importantes, dans un premier temps, c'est connaître l'autre. Avant même de discuter des désaccords, c'est apprendre à connaître l'autre. Et cette étape-là, elle est primordiale, elle est très importante. Je pense qu'on a un déficit dans ce sens-là. Et parmi les actions, justement, c'est trouver un espace et un temps d'échange. C'est ce qu'on fait sur Valsor ici au sein du groupe interreligieux dont je suis membre et Laurent aussi, mais aussi ce qui est organisé au niveau de la mosquée. On organise des journées portes ouvertes, des séminaires. Enfin, je me permets de faire un peu la publicité sur ce film. Voilà, c'est un séminaire le premier dimanche de chaque mois. C'est moi qui l'anime. J'invite tous, y compris mes amis athées, agnostiques, à venir parler du SAM. Vous pouvez très bien venir vous parler par exemple du VOD. Je vous dis que c'est une provocation, on accepte ça et on va vous répondre de notre point de vue, comment on voit le voile ou autre chose, parce que c'est pas vraiment de ça il s'agit. Donc c'était juste ma petite remarque, c'est pas vraiment une question, mais j'ai trouvé la conférence très très bien et ça m'a vraiment plu. Voilà.
Je reparle de la
campagne
de même si en France on l'a vécu de loin dans certains endroits, ou qu'on est né après la guerre d'Algérie, il y a des traces là qui ne s'effacent pas, qui sont là, qui sont. Même si ça n'a pas été vraiment dû, il y a des cicatrices, là, il y a des. C'est pas quelque chose qui doit nous amener aussi à des climats difficiles à vivre, quoi, il me semble.
La question se pose un peu comment doit-on réagir vis-à-vis de ce phénomène.
Donc la question que je me pose, et c'est une question que je n'inscris pas dans la religion puisque je suis agnostique, c'est dans la problématique du regard qu'on peut avoir sur les religions et sur l'autre, c'est le poids économique. Et si quand on regarde bien entre la première génération et les autres générations, il y a eu un déplacement économique très important qui fait que lorsque les premières vagues d'immigrés sont arrivées, ils ne prenaient la place de personne. Ils étaient complémentaires à la place de l'autre, et que petit à petit, avec le choc économique, on les assigne maintenant à l'autre place, et on dit ils prennent notre place. Ils nous changent le regard sur le migrant, sur l'autre. Et le poids économique ne peut pas être
comme ça, passé sous silence, il fait partie du problème et les solutions devront intégrer ce problème-là.
On va prendre encore une question et après on prendra les autres questions dans le problème.
Je voulais simplement dire que le mot tolérance est un mot absolument magique, mais bon, c'est vraiment ça le problème. Alors on parle d'intolérance ou de tolérance religieuse, mais le problème de la tolérance est un problème général dans la société actuellement où tout le monde devient intolérant. Dans les couples, par exemple, le manque de tolérance conduit à ce qu'on peut savoir, donc ça c'est une remarque, mais débouche sur une interrogation à laquelle on ne répondra certainement pas ce soir, mais c'est que faire pour que le monde devienne plus tolérant.
Alors, comment on a individué ce monde, quel groupe de départ? La science, c'est qu'il y a depuis à peu près 20 ans un travail qui est fait entre la mosquée conjuguée et un groupe de chrétiens qui ont monté ensemble sur la maison de sabots chrétiennes. Donc, une confiance qui est construite depuis longtemps. Pour avoir discuté avec les uns et les autres, où ils n'ont pas hésité à se secouer réciproquement. C'est-à-dire, à se dire clairement les uns les autres ce sur quoi ils n'étaient pas d'accord. Ils ont pu, du coup, aussi évoluer dans leur regard, dans leurs convictions, etc. Et que justement, la France était des interlocuteurs des deux côtés. Et que effectivement ici, vous avez le côté protestant et le côté catholique, et du coup, vous aussi, vous avez le côté de la mosquée locale, les gens qui ont été prêts à discuter, c'est une chance, parce qu'il n'y a pas toujours, et de la communauté juive, c'est une chance, parce que vous n'avez pas toujours tous les interlocuteurs localement pour parler. Donc c'est vraiment une chance à saisir, quoi. Sur le motif économique, oui, je pense que j'ai cité en passant plusieurs fois dans la conférence, parce que le Québec est situé en gros à un clivage racial. Les racines n'existent pas, mais je sais qu'on justement, on fait exister les races, on oppose des groupes les uns contre les autres, qui sont substitués à un clivage social, c'est à la fois le résultat de la crise économique. Et puis aussi le fait que on fait comme si c'est un autre débat, mais comme s'il n'y avait pas que le système économique qu'on a actuellement était le seul possible, et que donc à partir de là, s'il est le seul possible, il n'y a plus de débat social. Il n'y a plus de lutte des classes, il n'y a plus d'espoir d'autre chose, etc. Donc bien sûr qu'il y a une question aussi économique derrière, et c'est notamment la question économique du chômage, mais comment fonctionne le marché de l'emploi, le marché de l'économie en termes de discrimination. Vous avez peut-être vu dans le Monde de la semaine dernière une étude faite par l'INED et l'INSEE qui a suivi 2800 jeunes issus de l'immigration et en parallèle 2800 jeunes n'ayant pas d'apprenant étranger, et comparer la réussite scolaire et la réussite l'intégration après dans le marché du travail. En moyenne, la réussite scolaire c'est relativement égal, il y a des grosses différences selon les pays d'origine, mais c'est globalement égal. Par contre, dès que c'est l'intégration sociale, l'intégration dans le marché du travail, là c'est une catastrophe. Les jeunes qui ont l'immigration au niveau des diplômes et tout ça, vont être à l'égal quasiment à niveau social égal des jeunes de sans ascendant étranger. 67% des hommes de mémoire et 63% des filles en inverse sont des mariages mixtes. Donc voilà, l'intégration de leur part est spéciale importante, et puis dès que c'est un marché du travail, il y a les chiffres, c'est à sa figure. Donc là aussi, il y a un problème économique qui est assez massif et on n'a pas l'impression qu'en France on ne prenne pas beaucoup, beaucoup en main. Quoi. Donc, dans le plan d'action, à mon avis, il y a la dimension de contre la discrimination qui est aussi extrêmement, extrêmement importante. La guerre d'Algérie concerne, je disais, c'est développé sur un historique sur le rapport de la France à ses minorités, à au protestantisme, aux langues régionales. Il y a d'une certaine manière un rapport à ces minorités qui est un rapport centre et périphérie, quelque chose d'un rapport un peu colonial qu'on a appliqué à l'Algérie qui était une colonie. Et on non seulement il y a sans doute des lectures qui ne sont pas refermées, mais le sociologue met en avant qu'on continue à appliquer au quartier populaire des choses qui ressemblent à ce qu'on appliquait aux anciennes colonies. L'état d'urgence, quand il est appliqué en 2005 au moment des émeutes, la dernière fois, la fois précédente, c'est au moment de la guerre d'Algérie. Et quand on est, alors, c'est un élément isolé, si on soit, on ne dira rien, mais on pourrait aligner les fragments d'exception qui sont faits sur, dans le quartier populaire, quand on le vocabulaire, quand on parle de pacification, etc. Donc cette question-là, et puis voilà, la question de cette de la mémoire, des guerres coloniales qui n'est pas complètement travaillée et passée. Les crèches, c'est un sujet que je trouve assez compliqué, les crèches dans les mairies, parce que une crèche, c'est à la fois quelque chose de religieux. C'est quand même, moi je suis pasteur, je ne peux pas vous dire pourquoi pas quand même la naissance de Jésus, quoi. Donc c'est quand même quelque chose de profondément religieux. C'est quelque chose qui est devenu relativement traditionnel. Voilà, c'est une tradition, même quand il y a plein de non-croyants qui mettent des crèches chez eux et qui fêtent Noël, tous les non-croyants de France fêtent Noël quasiment. Vous avez beaucoup fait ça. Donc il y a une dimension culturelle et religieuse, les deux en même temps. Et donc là, si on applique strictement là, pour le coup, l'effet de la loi de 1905, c'est la neutralité de l'État et du choix public. Donc en tout figure, une crèche religieuse n'a pas sa place dans un espace public. Ce qui m'interpelle moi dans ces histoires de crèche, c'est qu'elles arrivent pas n'importe où. Elles arrivent à Béziers. Et elles arrivent en Vendée. C'est le nouveau président de la région, c'était Édouard, je crois, ancien du parti de Philippe de Vigny. Donc, à un moment, Robert Ménard dit « Ah mais non, c'est les Sansons, c'est la tradition. » De même, Robert Ménard, qui, quelques mois avant, avait mis une messe en ouverture de la carrière des Vieux. Quel est le discours, en gros, de Robert Ménard ou de Vendée, comme le président du général de Vendée, c'est la France a une identité chrétienne, elle n'a même pas une histoire chrétienne et des racines chrétiennes, mais la France a une identité chrétienne, il faut défendre cette identité chrétienne contre l'islam. Et donc quand ils font ces actes-là, ils espèrent bien, ils attendent une chose, c'est qu'on puisse, c'est ce qui s'est passé, les attaquer, essayer de faire interdire les crèches pour qu'ils puissent dire, regardez, nous chrétiens, on nous interdit d'être visibles, alors qu'on laisse tous ces musulmans se promener avec des voiles et des barbes dans la rue. Donc là, il ne faut pas être naïf, c'est un peu comme l'action de la laïcité tout à l'heure. Le problème, à mon avis, c'est que moyennement la crèche, c'est qu'est-ce qu'on en fait. C'est que là, en l'occurrence, c'est l'instrumentalisation du symbole de la crèche à des fins islamophobes, politiciennes, racistes. Moi, qui suis attaché à ce que symbolise la crèche, la naissance du sauveur, la symbolique de la fragilité qui est au cœur d'un monde troublé, et de ce que ça peut vouloir dire de la force de la faiblesse, etc. Moi, je suis assez en colère quand on instrumentalisera des fins politiques et racistes, un bel là qui pour moi est important. Je pense que le problème est pour moi beaucoup plus que cette instrumentalisation des crèches par des gens qui n'ont plus envie justement de les faire interdire pour pouvoir développer ce discours-là. Voilà, globalement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de... Alors, dans l'expression physique du christianisme, oui, on a effectivement une laïcité qui est plus regardante et peut être plus regardante, mais globalement, on peut pas dire qu'il y a une certaine expression et empêcher, je pense pas. Après, je dis, moi je suis donc la femme populaire, on gère des lieux qui sont des centres-jeux des maisons de quartier. Donc on est des lieux où il y a un bureau du jeu et du social, financé par exemple la sécurisation familiale. Et c'est sûr que il y a une pression de la part de l'administration de la CAF sur leurs salariés qui travaillent avec nous, ils sont beaucoup plus attentifs à ce que le religieux ne soit absolument pas visible dans le lieu. Après, les salariés de la CAF qui travaillent avec nous disent, nous on sait, on vous connaît, on sait le boulot que vous faites, on sait que vous ne faites pas de prosélytisme, etc., etc. Mais c'est sûr, une plus grande pression. Après, la question, c'est juste la pression quand elle est dans l'avant, réfléchir si c'est pas de prosélytisme. D'accord, on ne sait pas et la pression qu'on veut faire. Quand ça aboutit à vouloir transformer le projet dans ce qu'il est, etc., là, ça peut commencer à être problématique. Voilà.
Encore le temps de prendre la groupe de questions. Troisième rang, madame. Vous avez pas, je vous ai demandé que vous avez une question pour vous. Je proposerai une, on est en état d'urgence. Ça me pose question, parce que, usant de la liberté d'expression, on m'a rappelé l'autre jour, très exactement, qu'on est en état d'urgence, c'était des choses qu'on n'a pas le droit de dire en état d'urgence. J'ai posé lesquelles, on va pas trop dire. Voilà. Et étant dans la fonction publique, on a dit que dans l'état d'urgence, il y avait des obligations. Alors, je veux bien les entendre, mais j'aimerais également qu'on me les montre au niveau de la loi. Alors, l'état d'urgence et liberté d'expression, est-ce que ça agisse, puisque on parle d'inscrire un certain nombre dans la Constitution, je suis un peu inquiet du tout sécuritaire dans lequel on est en train de s'édifier. C'est un peu une question. C'est quoi, c'est une bonne chose, il paraît que 90% des Français approuvent. C'est apparemment dans les 10% autres. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Une question sur votre question. Ça me fait penser, votre question, pour lui répondre par la place de sûreté. Monsieur évoquait tout à l'heure l'espace de confiance, et l'état d'urgence, c'est aussi une manière d'instaurer un espace de confiance par la République. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, que je pensais à ça. Je prends un peu votre question pour
oui,
moi. En revanche, j'ai une question. La question, c'est déjà vous remercier de votre conférence, c'était une très très grande richesse par la multitude de sujets abordés, ce qui explique la complexité, ce qui montre la complexité du problème dans lequel la France est entrée. Et je voudrais évoquer une phrase très célèbre d'André Malraux, qui disait « Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas ». Et bon, à mon avis personnel, on est rentré dans le religieux de manière assez fracassante, je trouve, au lieu de rentrer de manière, de rentrer en douceur, je dirais, parce que tous ces problèmes... La situation dans laquelle l'intercommunautarité, quand on essaye de prendre à bras le corps, vient de toutes les violences. Ces sujets n'auront pas n'aurait peut-être pas émergé. Pour quelle raison? Parce que, à mon avis, la laïcité, si vous voulez, elle a un petit peu étouffé le fait religieux. Le fait religieux est un fait qui existe, et les gens qui sont religieux. Et la laïcité, c'est quelque chose qui est c'est très complexe parce que c'est lié à la politique. Donc, je ne vais pas rentrer dans la politique non plus, mais la laïcité est plutôt d'obédience de gauche. Et quand vous parliez tout à l'heure d'éducation, de reconnaissance du fait religieux et du creuset, le creuset il est dans l'école. Et l'école, et alors j'allais directement à la question. Donc, pour parler de désaccord, moi je pense que il faudrait parler d'accord et voir ce qui les peut réunir des chrétiens et des protestants. Ça fait relativement des chrétiens et des protestants. Des catholiques et des protestants, excusez-moi, ce qui peut les réunir avec l'Église, c'est relativement simple parce que ils sont issus de religion du livre. Alors que la religion musulmane, c'est une religion qui est beaucoup plus lointaine, une religion orientale, qui est basée sur comment ? Je suis d'accord avec toi, sans doute, elle se trouve plus orientale que les religions. Alors, la religion orientale est une religion qui bon, est horizontale, alors que la religion judéo-chrétienne est verticale. Et moi je pense qu'au lieu d'avoir des désaccords perpétuels, il faudrait voir ce qui rapproche ces religions et qui rapproche les gens. Voilà. Et ça rejoint un petit peu ce que disait monsieur tout à l'heure. Ça n'a pas comme une vérité.
Alors, on pose des questions, mais c'est pas les autres personnes qui ont une question.
Une question sur on a parlé des symboles religieux qui étaient les crêpes, les crucifix, mais est-ce que le Père Noël est un symbole religieux? Donc vous allez comprendre le sens de ma question parce que ça m'a rappelé un incident qui a eu lieu à Belfort où un chauffeur de bus de confession musulmane et c'est offusqué que ses collègues d'autres religions portent un bonnet rouge et a demandé à sa direction qu'on leur interdise de porter le bonnet rouge. Et la direction, pour éviter tout incident, a accepté donc le diktat de ses chauffeurs.
Il y a d'autres...
Je suis totalement en contre la définition de la laïcité qu'on a entendue. Je suis profondément laïque, mais la laïcité, c'est sûrement pas ce qu'on nous a dit. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, quand on voit tout ce qui s'est dit ici, je me demande si la grande solution, c'est pas un peu plus de culture. Voilà. Ben, un peu plus de culture et d'éducation.
Alors, je rappelle juste une petite chose, quand même. Comme président de l'association, Racine Chinoise n'est pas une association inter-religieuse. Il y a un groupe qui existe, avec des gens dans l'association qui font partie, évidemment, de ce qu'on appelle, sur le coin, les juges, le groupe inter-religieux. Donner des associations laïques. Beaucoup de gens au bureau, honnêtement, ont également des engagements à titre de religieux, mais on est là, membre d'une association, à titre de citoyen. Hein, je pense que c'est important. Mais par contre, on prend des sociétés et on les interroge au regard des religions. Et c'est pour ça que dans les intervenants, ça nous pose aucun problème de faire intervenir des gens qui ont des engagements qui sont religieux, comme certains qui n'en ont pas. Parce que interroger certains cette société au regard, avec le regard des religions, nous paraît enrichir le débat. C'est le rôle de l'association de Racine et Chemin. C'est important de le rappeler. Et ça, je vous laisse répondre.
Il me semble, à quoi doit servir la tolérance? Elle doit servir tout simplement à la paix sociale. Mmh. Voilà. Déjà, je pense que déjà, il faut définir un objectif.
être moins dans la morale et être plus dans le concret. À quoi doit servir la tolérance? On ne peut pas être spontanément et de manière innée tolérant, aimant, etc. etc. Elle a un but, c'est la paix sociale. En fait, cette paix sociale, elle se construit dans la conscience, elle se construit dans des espaces de dialogue, elle se construit dans la place qu'on laisse à l'autre. Mais laisser la place à l'autre, c'est beaucoup de sacrifices, parce que on ne doit pas se sentir menacé. Hein? Pour pouvoir accepter l'autre, il faut déjà pas se sentir menacé soi-même. Donc, sinon, on est pris en otage. C'est-à-dire qu'on a une conscience qui est prise en otage. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il faut, un peu aller un peu plus dans le concret, un peu plus dans l'action aussi. Hein. Je pense qu'il ne faut pas que je revoie une action.
Je vais essayer de faire une réponse sur propre réponse avant qu'on rende la salle.
Bon, sur la question de qu'est-ce qu'on a en commun entre les religions, je suis aussi la division religion orientale, religion occidentale, c'est le code d'histoire. On a bien fait de rappeler que nos religions viennent toutes d'Orient, et que l'islam, par exemple, est une religion de plus en plus française, dans tous les débats sur l'islam de France, sur l'influence des pays d'origine, etc. Mais de fait, avec des gens qui naissent ici, qui se convertissent ici, etc., on a un islam de plus en plus français. Et la division horizontale, verticale, elle marche pour le catholicisme, je ne pense pas qu'elle marche ni trop pour le judaïsme, ni trop pour le protestantisme. C'est pour moi, la. Disons que le protestantisme est plutôt une religion horizontale, qui n'a pas d'autorité centrale, et le judaïsme est certes organisé, mais il n'y a pas de pape des juifs. Donc, je me mettrai des choses très générales sur l'Orient et l'Occident. Sur l'état d'urgence, je pense effectivement il y a forcément une situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles, etc. Maintenant, aujourd'hui, l'état d'urgence, les manifestations ont lieu à nouveau, les réunions publiques ont lieu à nouveau, etc. Ça veut dire que ça ne sert plus actuellement qu'à avoir un ensemble de procédures policières qui ne sont pas soumises à moins de garanties de droit que ce qu'elles sont habituellement. Et que, au regard des chiffres qui ont été publiés sur à quoi ont servi les perquisitions, etc., ça a beaucoup servi à la lutte contre le trafic de drogue. C'est pas forcément un mal, hein, c'est des copains de famille, et où effectivement, on a l'impression que la police locale en a profité pour faire plein de trucs qu'ils n'arrivaient pas à faire très rapidement, ça. Mais ça pose quand même un problème, du coup, du point de vue du droit, de l'état de droit. Je pense que justement, face à des situations comme ça, j'apprécie plus la réponse qui avait été donnée au Danemark, c'est la tuerie de Montoya Copenhague, c'est ça du Sénégal, c'est ça, donc c'est à Montoya, où le maire de Copenhague répond après cette tuerie en disant nous répondrons par plus de fraternité, plus de démocratie, plus de liberté, etc. On répondra par plus de nos valeurs. Et c'est justement si les enjeux ils sont de réussir à plus parler, à plus échanger, etc., un état d'urgence qui durerait, qui se prolongerait, ne va pas dans ce sens-là. Ensuite, sur la place de sûreté, peut-être que vous l'utilisez comme ça. Après, moi j'insistais sur le fait qu'effectivement, un certain nombre de groupes en France ont besoin de se sentir plus sûrs en France. Que la nécessité policière de mieux protéger un de groupes ou de lieux peut se faire en dehors de l'état d'urgence. Et que par contre, ça a été aussi une machine à multiplier justement les perquisitions mal faites, n'importe quoi, où on explosait les portes, c'est pas la bonne personne, beaucoup dans les quartiers populaires, et à accentuer encore les contrôles aux faciès, etc. Et en termes de si la population d'origine étrangère et musulmane se sent sûre en France, ben, j'ai l'impression que la République, bien sûr, ça passe en France, ça va pas dans ce sens-là, quoi. Donc, voilà, moi, je suis très critique sur l'état d'urgence et sa prolongation. Et je pense que la question de le projet de loi sur la défense des nationalités pour les binationaux fragilise encore plus sur une partie de la population l'impression qu'elle est légitime en France. C'est ça, par rapport au fond de ce que j'ai expliqué, ça me semble très, très difficile. Les choses qu'on pourrait trouver en commun, je pense que je vais dans mon texte, mais j'ai pas eu le temps. Michael Zalzer dit que les croyances sont difficiles à partager, mais beaucoup plus les récits, et moi je dirais beaucoup plus les faits. C'est-à-dire que peut-être il y aurait moins de frustration d'avoir fait les histoires type les bonnets rouges de Père Noël, on va avoir plein de frictions de ce genre-là et plein de conflits de ce genre-là. Et d'un sens, c'est les ajustements qu'on a à trouver et qui vont se faire au fur et à mesure du temps. Et qu'il faut pas trop se frustrer sur le fait que oui, il va y avoir des conflits de ce type-là. Justement, la tolérance, c'est un donc ce n'est pas justement une vertu ou quelque chose pour rejoindre ce que disait Nadia, je pense que c'est ça c'est dans ce cas-là quelque chose autour de la paix sociale. C'est-à-dire être capable de pas s'énerver, de retenir son souffle et de pas monter en permanence sur ses grands chevaux quand il y a ce genre de conflit. Il va y en avoir plein. Et donc, il faut les vivre de manière tranquille et ça va s'ajuster. Je pense que ça s'ajusterait d'autant mieux si on était capable de trouver des nouveaux lieux de cette commune. Je pense que Noël, certes, il y a les festivités d'hiver, et donc ça tend plus une existence avant que ça soit une fête chrétienne. Ça a été vraiment massivement une fête chrétienne pendant des siècles, et c'est devenu une fête commune à tout le monde. Bon. Et bien, est-ce qu'on pourrait pas penser que d'autres fêtes deviennent des fêtes communes d'autres fêtes, d'autres religions deviennent des fêtes communes à tout le monde. Quand je dis laïque devenait une fête commune à tout le monde, ça pourrait être un très beau lieu de rencontre, un très bon moment de rencontre qui fasse que on partage quelque chose en commun. Et là, effectivement, on a une espèce d'illogique de la laïcité. L'état d'achèvement de la laïcité à la française, c'est que si parmi les fêtes officielles de l'État, il y a des fêtes religieuses, je ne vois pas comment on est rapproché qu'il doit y avoir soit aucune fête religieuse, ce qui n'est pas trop pensable, soit d'autres fêtes religieuses. Voilà. Bon, en France, on a bien vu la dernière fois que ça a été proposé par quelqu'un, et certains de l'État, et avant les Azulis, ça a été, c'est tout un peu. Bon. Alors peut-être que sans que ça vienne des fêtes officielles, est-ce que depuis la société civile, on peut essayer de faire qu'un certain nombre de fêtes de l'islam, du judaïsme, d'autres puissent être des fêtes qu'on partage. Voilà. Donc si il est la société. Moi, je suis une cloche, mais j'ai pas d'heure. 35, allez, on se donne 10 minutes. Hein, parce que ça, par respect pour le gardien qui est là, si on s'entend très bien, on a toujours quitté les locaux à l'heure. Des questions donc courtes, ou des réponses courtes, ça se prend un texte.
Oui. Est-ce que la laïcité ne s'est pas laissée déborder par le père religieux?
D'autres questions? Oui.
Amen. Est-ce que ce serait pas plus pertinent de parler de la communauté de destin plutôt que de la tolérance? Prendre le problème inversement. C'est-à-dire qu'on a le...
Comment c'est organisé?
D'autres questions?
J'apprécierai une.
Et avec les jeunes, je travaille avec des jeunes. Est-ce que vous voyez, on parlait un peu de formation hein, dans votre travail quotidien avec des jeunes, est-ce qu'il y a des choses particulières?
Alors, que l'institution se débordait par la religion, je dirais qu'elle s'est tout le temps se débordée par la religion. En 1905, un stade des associations culturelles qui vont appliquer les juifs et les protestants, l'Église catholique a refusé d'appliquer. Et donc l'Église catholique, en 1920, une loi spécialement pour elle, qui permettra de s'organiser également sur un autre mode que ce qui a été discuté, qui a été prévu en 1905. Et que on peut multiplier les exemples en disant les fêtes dans le salon de l'assemblée d'hommes comme ça, si on fait dire par exemple à un sociologue comme Jean Bobéro qu'on avait une catholaïcité, c'est-à-dire une laïcité très adaptée au catholicisme, un pays qui était majoritairement catholique. Donc ça veut dire que la laïcité a été suffisamment intelligente et suffisamment souple pour s'adapter, pour faire déborder, mais à faire déborder et d'une certaine manière continuer à tenir le cadre, et pour des raisons de sociales. C'est-à-dire que quand on arrête le moment qu'on appelle le moment des inventaires, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais où en gros on va l'arrêter parce que ça tourne à l'État se dit ça tourne à la guerre civile. Donc elle a toujours su s'adapter pour pouvoir trouver des fonctionnements et des arrangements qui permettaient d'intégrer la réalité sociale de religieux en France. Il serait dommage qu'on n'arrive pas à avoir cette inventivité-là et cette intelligence-là avec l'arrivée de l'islam, ce qui ne veut pas dire s'aborder le cadre laïque. Ce qui pense que dès qu'on est capable d'avoir des arrangements intelligents par rapport à l'islam, on s'aborde la laïcité, ils oublient que l'histoire de la laïcité est en permanence cette capacité à évidemment tout pour cadrer le fait religieux, trouver des arrangements. Par rapport aux jeunes, je dirais seulement c'est ce que j'ai déjà dit un peu dans la conférence, c'est que moi je suis très frappée par les discussions avec des jeunes musulmans pratiquants dans là où je travaille, sur ce sentiment profond qu'ils ont en plus que on veut faire disparaître l'islam, on veut faire disparaître l'islam. Qui soit le moins visible possible, et finalement il arrive assez en vie qu'il disparaisse. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ce que je sais, c'est qu'ils ont ce sentiment-là, et que il faut le prendre en compte, parce que justement, la réponse qui est la leur, c'est de l'islamophobie, si on est peut-être, c'est de l'islamophobie, on veut nous éliminer, donc on va tenir, et donc ils vont encore plus. Et eux, en tout cas, vous savez, encore plus s'ils sont dans la salle du vide dans la rue, la barre qui pousse, le bois, etc. Et qu'il faut sortir de cet engrenage. Il faut sortir de cet engrenage en étant très attentif à tout ce qui peut être ressenti comme de l'islamophobie. Et puis après, c'est la loi qu'on vient, la question quand même sociale et économique. Dans le.
sociale et économique et la question de l'école, je vais regarder comment cette étude du monde dont on parlait tout à l'heure. Il y a certes égalité en moyenne pour tous les jeunes issus de l'immigration, mais ça c'est assez dur pour les jeunes issus de l'immigration maghrébine et les jeunes de la société sahélienne qui, après, dans leur insertion professionnelle, sont encore plus discriminés. Voilà. Donc, on n'aura pas réglé aussi ces questions-là qui sont aussi des questions d'action de moyens. Les actions de parents d'élèves, en 5-5,5, ont calculé qu'avec l'absence des profs, les profs non remplacés, le manque de moyens mis pour qu'il y ait des profs tout le temps dans les élèves, un élève en fin de scolarité en 5-5,5 a perdu un an de scolarité. Ça, c'est cumulé tous les moments où il n'y a pas de prof, pas d'enseignant en face de lui parce qu'on remplace pas les profs, il perd un an de scolarité. C'est quand même, donc, c'est un chiffre qui disait qu'il n'y a pas égalité. Et quand on regarde l'argent qui est mis en Seine-Saint-Denis et dans les lycées parisiens et à fortiori dans les classes prépa ou grandes écoles, les chiffres sont vertigineux. La différence de moyens mis d'un côté ou de l'autre, c'est que en Seine-Saint-Denis, les élus ne demandent pas, pas plus de moyens, ils demandent le même traitement que tout le monde. Ils demandent l'égalité de moyens par rapport au reste du territoire. Donc voilà ce que je voudrais dire sur les jeunes. Sur la communauté de destin, je pense qu'effectivement, c'est à ça qu'il faut réussir à, il faut aller vers ça. C'est peut-être une des pistes, c'était Michel Valzer qui disait que la France était un pays un peu particulier comme État-nation, à la fois État-nation et société d'immigration, et qu'elle avait ça de particulier, et justement, elle avait aussi une recherche que je ressens en tant que je vous parle, quand elle disait que c'est que la France est un État-nation particulier, l'idée d'un peuple constitué en corps politique voulait la défense d'une cause. Et que, voilà, ça c'est peut-être quelque chose qui est d'un peu spécifique, et que ça rejoint ces deux communautés de destin, et que peut-être il faut réussir justement trouver cette cause, cette cause commune, qui permettent aussi de rassembler les gens avec, non pas au-delà, mais avec toutes leurs différences et avec tout ce qu'ils sont.